Podcast numéro 2 sur la lettre encyclique « Il nous a aimés » d'Ilexit Nos du pape François. Nous lisons aujourd'hui l'ouverture et le chapitre 1 des paragraphes 1 à 8 sur l'importance du cœur.
Il nous a aimés, dit saint Paul en parlant du Christ, nous faisant découvrir que rien ne pourra nous séparer de son amour. Il l'affirme avec certitude, car le Christ l'a dit lui-même à ses disciples, « Je vous ai aimé ». Il a dit aussi, « Je vous appelle ami ». Son cœur ouvert nous précède et nous attend inconditionnellement, sans exiger de préalable pour nous aimer et nous offrir son amitié. Il nous a aimés le premier. Grâce à Jésus, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru.
Chapitre 1. L'importance du cœur. On utilise souvent le symbole du cœur pour parler de l'amour de Jésus-Christ. Certains se demandent si cela a encore un sens aujourd'hui. Or, lorsque nous sommes tentés de naviguer en surface, de vivre à la hâte, sans savoir pourquoi, de nous transformer en consommateurs insatiables, asservi au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence, nous devons redécouvrir l'importance du cœur.
Quelle compréhension avons-nous du cœur ? Dans le grec classique profane, le terme cardia désigne le tréfonds des êtres humains, des animaux et des plantes. Il indique chez Homère non seulement le centre corporel, mais aussi le centre émotionnel et spirituel de l'homme. Dans l'Iliade, la pensée et le sentiment relèvent du cœur et sont très proches l'un de l'autre. Le cœur apparaît comme le centre du désir et le lieu où se prennent les décisions importantes de la personne. Le cœur acquiert chez Platon une fonction de synthèse du rationnel et des tendances de chacun. Les passions et les requêtes des facultés supérieures se transmettant à travers les veines et confluant vers le cœur. C'est ainsi que nous voyons depuis l'Antiquité l'importance de considérer l'être humain non pas comme une somme de diverses facultés, mais comme un ensemble âme-corps avec un centre unificateur qui donne à tout ce que vit la personne, qui donne à tout ce que vit la personne un sens et une orientation.
La Bible affirme que vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Elle nous parle ainsi d'un centre, le cœur, qui se trouve derrière toute apparence, même derrière les pensées superficielles qui nous trompent. Les disciples d'Emmaüs, dans leur marche mystérieuse avec le Christ ressuscité, ont vécu un moment d'angoisse, de confusion, de désespoir, de désillusion. Mais au-delà et malgré tout, quelque chose se passait au fond d'eux. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin ?
En même temps, le cœur est le lieu de la sincérité, où l'on ne peut ni tromper ni dissimuler. Il renvoie généralement aux véritables intentions d'une personne, ce qu'elle pense, croit et veut vraiment, les secrets qu'elle ne dit à personne, et en fin de compte, sa vérité nue. Il s'agit de ce qui est authentique, réel, vraiment à soi, ce qui n'est ni apparence ni mensonge. C'est pourquoi Dalila déclarait à Samson, qui ne lui révélait pas le secret de sa force, « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi ?» Ce n'est que lorsqu'il lui confia son secret, si caché, qu'elle comprit qu'il lui avait ouvert tout son cœur.
Cette vérité propre à toute personne est souvent cachée sous beaucoup de feuilles mortes. Au point qu'il est difficile de se connaître soi-même, et plus difficile encore de connaître l'autre. Le cœur est rusé plus que tout, et pervers, qui peut le pénétrer ? Nous comprenons ainsi pourquoi le livre des Proverbes nous interpelle. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de toi la bouche perverse. L'apparence, la dissimulation et la supercherie abîment et pervertissent le cœur. Nombreuses sont nos tentatives pour montrer ou exprimer ce que nous ne sommes pas. Or, tout se joue dans le cœur. On y est soi-même, quel que soit ce que l'on montre extérieurement et ce que l'on cache. C'est le fondement de tout projet solide pour la vie, car rien de valable ne se construit sans le cœur. L'apparence et le mensonge n'offrent que du vide.
En guise de métaphore, je voudrais rappeler une chose que j'ai déjà racontée à d'autres occasions. Pour le carnaval, quand nous étions enfants, notre grand-mère nous faisait des biscuits et elle faisait une pâte très fine. Ensuite, elle la mettait dans l'huile et cette pâte gonflait. Et quand nous la mangeions, elle était vide. En dialecte, ces biscuits s'appelaient des mensonges. Et la grand-mère nous en expliquait la raison. Ces biscuits sont comme les mensonges. Ils semblent grands, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a là aucune vérité. Il n'y a aucune substance.
Au lieu de rechercher des satisfactions superficielles et de jouer un rôle devant les autres, il vaut mieux laisser surgir les questions décisives. Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que je cherche ? Quel sens je veux donner à ma vie, à mes choix ou à mes actions ? Pourquoi et dans quel but suis-je dans ce monde ? Comment est-ce que je veux donner de la valeur à mon existence lorsqu'elle s'achèvera ? Quel sens je veux donner à tout ce que je vis ? Qui est-ce que je veux être devant les autres ? Qui suis-je devant Dieu ? Ces questions me ramènent à mon cœur.
Voilà pour aujourd'hui. La question sur laquelle nous pouvons réfléchir est la suivante. En ce premier jour de parcours de carême, je présente mon cœur en vérité devant Dieu. Quel sens je veux donner à ce que je vis ? Je peux écrire ce que je perçois du sens de ma vie et les questions importantes pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Bonne journée et à demain.